Quelle est la dernière fois où vous avez écrit à la main ? Avez-vous parfois la nostalgie du beau papier, des lettres manuscrites, des cartes postales qui créent la surprise quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, des petites attentions tout simplement écrites avec soin et qui nous font du bien ? Moi, oui, j'aime succomber au charme du beau papier. Pour ce tout premier épisode, je suis allée rencontrer Cédric, typographe à Bruxelles dans le quartier du Châtelain. Cédric aime le travail manuel, le visuel, le design et la recherche graphique. Et c'est ainsi qu'il s'intéresse de près à la typographie. Il a alors une révélation. Ce qui l'attire, c'est de créer, faire quelque chose de ses mains, avec des contraintes techniques propres au métier. Il va devenir en quelque sorte créateur de caractères. Il me donne rendez-vous dans les bureaux du typographe, rue Américaine à Ixelles. Pour y accéder, je traverse le grand porche qui mène à la boutique. Je suis un peu en avance, alors j'en profite pour y jeter un œil. L'endroit est beau, joliment décoré et orné de boiseries. C'est cosy et raffiné. La musique est apaisante et il s'y dégage une sorte de quiétude. J'arrive ensuite dans une arrière-cour qui donne sur la porte de l'atelier. Atelier qui, 30 ans auparavant, était déjà une imprimerie. Alors si ça, c'est pas un signe du destin. Entrer dans cet endroit, c'est comme faire un voyage dans le temps. Les machines sont d'époque et manuelles. J'hume l'odeur du papier, de l'encre et m'imprègne de l'atmosphère de l'endroit. Je monte l'escalier, menant au bureau où Cédric m'accueille avec un grand sourire. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez le podcast « J'aime quand vous souriez », épisode 1, saison 1, c'est parti. Bonjour Cédric.
Bonjour Isaline.
Merci de me recevoir à nouveau chez le typographe, rue Américaine à Bruxelles. On s'était rencontrés il y a longtemps, en 2021, pour une chronique radio où je parlais déjà du typographe. Là, j'avais envie de vous revoir pour en discuter plus longuement, discuter aussi de tout ce qu'il y a dans le typographe, votre projet, le savoir-faire, la créativité qui se cache derrière. Donc, j'aimerais bien commencer par une question pour moi qui n'était pas évidente au départ. C'est quoi un typographe ?
Un typographe. C'est un métier.
Oui.
Et c'est aussi un insecte. Il y a un insecte qui s'appelle le typographe parce que quand on a soulevé l'écorce de l'arbre, il a dessiné des galeries.
Oui.
Et les scientifiques l'ont appelé un typographe.
D'accord.
Mais c'est aussi un métier avec dans le domaine de l'impression.
Mm-hmm.
Donc de l'impression traditionnelle avec des caractères mobiles, comme Gutenberg les a inventés. Donc, lettre par lettre, la composition, avec le... Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie,
mm-hmm.
Il a inventé le caractère mobile.
Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi le caractère mobile ?
Oui. Eh bien, chaque lettre est un caractère. Donc, il est un élément indépendant.
Mm-hmm.
Un peu comme la machine à écrire, sur laquelle on frappe chaque lettre.
Oui.
Et bien là, nous, on met dans un composteur, lettre par lettre.
D'accord. Ça, c'est Gutenberg. Alors ça, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose.
L'impression, elle existe depuis toujours.
Oui.
L'homme préhistorique qui a mis sa main dans la terre et qui l'a imprimé sur une paroi, il a imprimé sa main.
Mmh.
Et Gutenberg, il a inventé le système du caractère mobile réutilisable. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est mobile. On peut le réutiliser. Donc la petite lettre A que l'on prend dans le tiroir qu'on appelle une casse pour composer,
oui.
Et ben on peut le réutiliser ensuite.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et comment vous est venue l'idée de... Parlez-moi un peu de votre parcours. Vous avez une formation en imprimerie ou vous êtes...
J'ai pas de formation en imprimerie, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce type d'impression, cet artisanat, aux Beaux-Arts à Besançon, où il y avait encore à l'école, à l'époque, un typographe, Pierre Voisin, qui habitait le sous-sol de l'école avec ses machines et ses lettres en plomb, ses caractères mobiles.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup traîné dans cette imprimerie entre mes cours et entre mes ateliers. Et là, il y a eu un coup de cœur pour ce savoir-faire. Donc lui m'a partagé ce qu'il savait. Et j'ai eu une base de composition typographique avec lui.
Et qu'est-ce qui vous a plu là-dedans?
Ce qui m'a plu, c'est peut-être le côté Lego.
Oui, c'est vrai. C'est comme, oui, c'est un peu un jeu, en fait. Oui.
Parce que de placer les éléments un par un blanc est visualisé. Quand on tape un espace, une espace sur notre clavier, on ne le voit pas. Mais oui. Pourtant, c'est un volume qu'on laisse.
Oui.
Et nous, en plomb, tout est visuel. Aussi bien les pleins que les vides. Tout doit être habité.
D'accord. D'accord. Ouais, c'est assez philosophique en même temps. Ça, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que via l'impression, comme au temps de la préhistoire, on laissait une trace comme ça. Et oui, c'est plutôt c'est assez intéressant à ce niveau-là.
Ce qui m'a plu aussi à ce moment-là, c'est la répétition et la série. Donc, je faisais souvent un travail sériel. Aux Beaux-Arts, en peinture. Et là, à l'imprimerie, vous pouvez faire un exemplaire et 3000 exemplaires.
Oui, c'est ça.
Avec la même composition de départ. Mm-hmm. Et ça m'a tout de suite plu.
Et alors, vous étiez étudiant donc, aux Beaux-Arts à Besançon. Vous avez un coup de cœur pour ce métier. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie?
Ensuite, je quitte les Beaux-Arts pour venir faire un post-diplôme en dessin ici à l'Académie Royale à Bruxelles, ce qui m'a emmené en Belgique. Et puis, j'avais gardé des liens un peu avec les Beaux-Arts à Besançon. J'avais stocké à la cave de l'école des lettres en plomb, des lettres que j'avais chinées dans des imprimeries qui fermaient. Et un jour, le directeur m'appelle, me dit « Cédric, on fait des travaux, il faut absolument vider tes palettes de plomb, on ne peut pas les garder ». Et là, un autre imprimeur avait aussi une machine à donner. Donc là, je me suis dit, l'un plus l'autre, c'est peut-être le moment que je commence.
Oui, à tout était réuni.
C'était le moment favorable. Ouais. et j'ai commencé comme ça, avec une machine et quelques tiroirs de lettres. Et un peu comme le cordonnier dans un village, ouais, sauf que c'était à Bruxelles. Voilà.
Et vous faisiez ça où au départ? C'était chez vous ou
Non, j'ai cherché un endroit parce qu'il faut justement la puissance électrique suffisante pour ces machines. Et j'ai atterri dans le quartier de Bruckmann.
D'accord.
Parce que la porte était assez large pour entrer la machine.
D'accord, voilà. Oui, il y a ça aussi. Puis j'imagine que c'est des machines assez imposantes, lourdes.
C'est une machine qui fait 800 kilos en fonte, qui sont un peu increvables. C'est très mécanique comme système. Le bruit est très beau.
C'est ce que j'ai entendu quand je suis arrivée dans l'atelier. Oui. Ouais, c'est vrai. Il y a un bruit mécanique.
C'est très habité.
Ouais.
Et par exemple, quand on a une des trois qui fait tel bruit, ou la soufflerie qui ne va pas, on sait tout de suite. Même à l'étage au-dessus, je peux entendre. Je dis, tiens, celle-là. Voilà. Je sais pas. J'aurais pu leur donner chacune un prénom.
Oui, c'est un peu vos petits, vos bébés qui vous permettent de réaliser donc la typographie et de l'imprimerie. Donc ici, donc maintenant on est à rue Américaine. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici dans cet atelier?
3 ans après le début rue Franz-Merget, donc rue Franz-Merget c'était en mai 2007.
D'accord, donc ça c'était les tout débuts de votre activité, d'accord.
Où il y avait une machine et quelques tiroirs de lettres.
Oui.
Au bout d'un an, je commençais à être à l'étroit, parce qu'on m'appelait pour récupérer des lettres par-ci ou par-là.
Oui.
Parce que les imprimés me disaient, oh là là, mais nous on n'utilise plus ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc je disais oui. Mais à la fin, la cave était pleine. Fallait trouver un espace. Et puis une autre imprimerie qui stoppait son activité aussi près de l'Atomium.
D'accord.
Là, j'ai racheté des machines. C'était un peu sauver un patrimoine plutôt que ça parte à la ferraille à l'époque.
Oui, c'est ça, on voit beaucoup, je vois par exemple sur votre site où vous expliquez un peu votre histoire et votre univers, il y a quand même le fait de faire perdurer un patrimoine et un savoir-faire qui aujourd'hui à l'ère du numérique est... C'est vrai, aujourd'hui on privilégie plutôt un cahier ou une carte postale plutôt que d'envoyer un mail ou d'écrire sur son ordinateur. Donc,
je crois profondément que les deux ont une place.
Ouais. Si on perd
la mémoire et le souvenir d'où on vient, je pense qu'on va vers un vide.
Oui, complètement.
Et par exemple... un graphiste aujourd'hui qui utilise Photoshop ou Illustrator, son logiciel a été pensé d'après les mesures et les bases typographiques que nous on utilise. Même sur du Word, si on tape encore 20, 24, ben, cette taille de corps de la lettre, cette hauteur de lettre, elle a été pensée d'abord matériellement par du plomb, mais après a été retranscrite par du binaire et de l'informatique. Donc pour moi, c'est aussi une part de mémoire.
Oui.
Mais c'est une mémoire vivante parce qu'on l'utilise.
Oui, de mémoire.
C'est pas un musée. Ça, j'y compte, j'y tiens. Nous ne sommes pas un musée, mais nous sommes un atelier vivant.
Oui, mais ça, c'est sûr que c'est pas un musée parce que quand on rentre dans votre... même dans votre boutique, il y a quelque chose de... c'est assez déjà assez chaleureux, c'est assez coloré. Il y a quand on regarde, moi je sais que je suis déjà venue pour acheter un agenda ou des choses comme ça. Il y a quand même une, on voit que c'est du beau papier et en même temps il y a un côté moderne dans tout ce design et avec des couleurs flashy. Enfin, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez inspirant et d'actualité quoi. Donc, alors expliquez-moi un peu comment. Donc, vous arrivez ici pour monter votre atelier, ouvrir la boutique en même temps.
Oui, alors l'autre c'était atelier boutique. Les clients rentraient dedans,
ouais, oui.
Comme le cordonnier du village.
Ouais.
ils disaient oh là là, sympa la machine. Voilà. Là, il fallait passer à une autre étape où c'était compliqué d'avoir du monde autour des machines aussi, des mesures de sécurité. Donc la configuration du bâtiment s'y prêtait bien, à l'avant la boutique, la porte cochère, le couloir et l'atelier à l'arrière.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ce qui est fou, c'est qu'il y a plus de 30 ans, c'était une imprimerie ici. J'ai su par des personnes âgées qui passaient devant, « Oh, mais cette imprimerie existe toujours. » Et
voilà.
En fait...
La boucle est bouclée.
Oui, vraiment.
On y revient. Non, mais c'est fou. Hein. En effet, il y a des destins comme ça.
Voilà.
C'est le destin. et comment, au départ, parce que, comme vous dites, il y a beaucoup d'imprimeries qui ont fermé, qui étaient plutôt au ralenti par manque de demande ou de production. Comment vous faites connaître? Et comment vous cherchez à vous démarquer par rapport... aux imprimeries traditionnelles.
Il y a 17 ans, je me serais lancé dans l'imprimerie numérique qui a pris la suite de l'offset. Franchement, je n'aurais pas pu commencer. Voilà. Moi, j'étais déjà dépassé. La technologie numérique va très très vite, y compris dans les imprimeries aujourd'hui.
D'accord.
En prenant le choix d'un savoir-faire très manuel... c'était le choix de rester dans une niche aussi.
Oui.
Donc, de s'en tenir à ce que je savais faire et d'essayer de développer un univers autour.
D'accord.
Alors, on me disait, vous ne pouvez pas imprimer de photos? Ben non, je n'imprime pas de photos. J'imprime du texte.
Ouais.
Alors, ce n'est pas très sexy pour beaucoup.
Ah mais... oui, on vous demande des impressions.
Oui, on me disait, vous faites les photocopies? Non.
Non. Merci.
Voilà. Et c'est vrai que le début a été compliqué à faire comprendre sur la limite dans laquelle, le cadre dans lequel je pouvais travailler. Mais c'est bien. Petit à petit, c'est les produits qu'on a produits ici en interne qui ont expliqué aussi jusqu'où on pouvait aller. Et même nous, à un moment, il y avait aussi un défi de de revisiter cet ancien métier.
Oui.
Et de le remettre un peu, comme vous disiez, avec des nouveaux papiers, avec des nouvelles, avec un peu plus de frappe dans le papier.
Oui.
De voir jusqu'où on peut pousser cette technique et l'adapter par rapport à notre époque.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous voyez, enfin, avec le recul, enfin, vous voyez que ça plaît aujourd'hui.
Oui, et moi je pense qu'on est dans cette tendance-là aussi aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Un boulanger qui va refaire du pain dans un pétrin, il y a 15 ans, on ne pouvait pas dire oui. Ou c'est peut-être dans les tuyaux.
Mm-hmm.
Alors qu'aujourd'hui, ça choque personne qu'un boulanger se dise, ben, moi je vais juste faire tant de pain chaque jour à la main dans un pétrin. Et ça n'empêche pas qu'à côté, il peut avoir de la boulangerie industrielle et un boulanger artisan.
Oui.
Et moi, je pense qu'on est dans une impression de pur artisanat, tout fait main. Et à côté, il y a l'impression numérique et tout ce qui est web et tout ça qui peut coexister.
Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est que tout coexiste. On ne peut pas... comment dire, le papier ne va pas anéantir le numérique et vice-versa. Enfin, c'est complémentaire. Et comment vous expliquez ça, enfin, le parallèle avec le boulanger, enfin, c'est assez intéressant de voir comment on explique ça, qu'on essaie de revenir à des choses qui sont... où il y a un savoir-faire derrière, où il y a une matière première qui est... travailler. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a eu un effet? Alors, je ne sais pas, la période du Covid a aussi amené les gens à repenser un peu leur mode de consommation. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
Je crois profondément, moi, qu'il y a une recherche de la personne, une recherche de vérité avec ce qu'elle a envie d'être. Que plus c'est vaste, moins on arrive à se situer. Et qu'aujourd'hui, par exemple, si un petit maraîcher ose se lancer à côté de la grande surface et des grandes consommations, et que les deux peuvent coexister, hein, peut-être que lui se sent plus à sa place.
Oui.
Et se dire, mais en fait, c'est à mon échelle. Et l'imprimerie, quand j'ai commencé, c'était à mon échelle. Alors aujourd'hui, il y a une douzaine de personnes, mais ça reste à l'échelle de 12 personnes.
Oui, à votre échelle, et qui... Vous alliez aussi votre passion et vous y mettez beaucoup de sens aussi dans tout ce que vous faites. Donc, ça ferait peut-être justement pas de sens de vouloir faire grossir ça et d'arriver à un mode de production quasi industriel et qui perdrait toute la sève du projet à la base.
Des amis me l'ont proposé souvent.
Oui,
mais tu pourras grandir.
Oui.
Oui, mais. Pour moi, il vaut mieux grandir que grossir. C'est ce que je répondais.
Oui, c'est vrai.
Et on peut grandir en restant très petit,
ouais.
Comme échelle. Mais grandir humainement, grandir pour que ça ait du sens dans ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Voilà. Si on est là pour grossir et faire du volume et ne faire que du volume, je pense que là, on perd le sens de l'origine du travail.
Ah, mais complètement. Complètement.
Voilà.
Et oui, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui repensent tout ça. Enfin, même pourquoi il y a autant aussi de gens qui veulent se lancer aussi à monter leur entreprise, c'est peut-être aussi pour mettre un peu plus de sens et d'identité dans ce qu'ils font. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que pour vous, c'est aussi quelle est mon identité à travers le typographe, mais aussi pour les gens qui viennent chez vous. Enfin, moi, je sais que quand je suis venue chez vous, c'est aussi qu'est-ce que je vais pouvoir choisir qui puisse me ressembler. Dans les agendas, même dans les cartes postales, je sais pas, il y a toujours de vœux ou etc. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose. On dit tiens, ça me correspond. Donc je vais le prendre. On voit que c'est quelque chose qui peut être unique, même si c'est pas unique, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs cartes à vendre, mais qui peut être unique pour soi.
Bah, tout est fait ici en interne.
Oui.
Alors en même temps, c'est un peu un laboratoire pour nous. Parce que moi, j'ai un souvenir, on avait une carte comme ça où c'était mis les jeunes filles vont au paradis, les autres partout, quelque chose comme ça. Ou les fissages vont au paradis, les autres partout.
Oui. Ou les autres où elles veulent, je crois.
Oui, enfin voilà, ouais. Sur un papier vraiment rose fluo. Enfin,
oui.
En fait, c'est un petit graffiti que j'avais lu sur un banc dans une gare à Aix-en-Provence.
Ben voilà.
Et des fois, on a une cliente qui passe et qui nous dit « Ah, ben tiens, ou l'autre jour, moi, j'aimerais bien une carte pour montrer à quelqu'un qu'on pense pendant une condoléance, qu'on a une pensée pour quelqu'un. » Et en fait, on a réimprimé une carte avec une petite fleur de pensée dessus.
D'accord.
Et ouais. Pour que ça soit un peu... pas écrit clairement « condoléance », mais que ça puisse correspondre à différents univers. Et la cliente, après, quand elle est repassée, elle m'a dit « Ah, c'est sympa, parce que ça correspondait aussi à ce qu'elle avait... »
Pensé.
Oui, pensé, exactement.
Oui, c'est ça, c'est... Oui. Oui,
je pense qu'il faut rester à l'écoute de ce qu'on a autour de nous.
Oui. Et rester ouvert... Enfin, là, quand vous dites, bah voilà, j'ai vu ce graffiti dans la gare, rester ouvert à ce qui nous entoure et les yeux. Enfin, souvent, l'inspiration vient en se baladant.
Alors, je note cette phrase sur mon carnet, et puis après, ben, c'est quel typo correspond le mieux pour faire passer, pour dire ce message, quel papier, enfin voilà. Et ça, c'est un peu la partie créa de la maison. Comment associer des choses pour que ça devienne un produit.
Ouais.
Par exemple, pour les cartes de Noël l'année dernière, vu le réchauffement climatique, les changements, tout ça, on a moins de neige en hiver, c'est sûr qu'une carte avec un bonhomme de neige aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, vers quoi on peut évoluer graphiquement ? Moi, ça m'intéresse aussi. Où on dit plus trop Joyeux Noël, mais plutôt, j'entends que c'est plutôt la saison hiver.
Oui.
Qui est mis en avant.
Les plaisirs d'hiver.
Voilà, plaisirs d'hiver, c'est plus marché de Noël. Enfin, comment répondre et comment accompagner graphiquement et par la couleur, par les papiers, notre monde d'aujourd'hui.
D'accord. Ouais, c'est ça, oui.
Pour moi, c'est vraiment un accompagnement de ce qu'il y a, de ce qu'on rencontre.
Et alors, si on revient un peu à votre... toutes vos techniques de fabrication, comment ça se passe?
D'abord, il faut du papier.
Oui. Voilà. Alors, où est-ce que le typographe se fournit en papier, enfin en matière première?
J'ai eu beaucoup de plaisir à visiter pas mal d'usines de papier pour comprendre le monde du papier, comment c'est produit, d'où ça vient. Aujourd'hui, on est sur des papiers... Les usines en papeterie sont les premières à avoir fait un grand virage sur le monde écologique. Moi, je me souviens d'avoir visité des usines en Suède ou en Allemagne où vraiment il y a la station d'épuration à la fin. Quand il faut du papier, il faut toujours de l'eau. Parce qu'au début, c'est 99% d'eau pour un gramme de pâte à papier. Donc, il faut l'eau de la rivière. Il y avait un traitement des eaux. Il y avait un respect des produits... et du recyclage possible. Moi, j'ai découvert un univers mais fabuleux. Et ça a été tellement pointé du doigt quand l'ère numérique a commencé en plein boom. Moi, j'ai ce souvenir à l'école où on me disait « Non, il ne faut pas gaspiller une feuille de papier. Enfin, » Et en fait, la feuille de papier est recyclable, ça rentre dans un circuit. Enfin, on a besoin de ce support. C'est un des supports de l'humanité. Enfin, quel que soit le continent, on a voulu faire du papier à un moment. C'est aussi de l'ordre de la mémoire. Inscrire sur un carnet l'assimilation de ce qu'on écrit et simplement s'en limiter à une pensée ou le mettre dans notre smartphone, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, quelquefois, je me demande est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours ou quoi, mais quand je note quelque chose sur mon cahier, je vais avoir des idées plus d'idées à continuer mes notes, alors que quand je le note sur mon téléphone, je sais pas, il y a un truc qui bloque dans mon cerveau. Je note ce que j'ai à noter, mais ça s'arrête là, et souvent je ne vais pas le revoir, alors que sur mon cahier, je sais que j'ai un cahier dédié à ça, à tel type de projet ou quoi, et je sais où c'est. Voilà.
Voilà. C'est donc la force du papier.
Oui. Non, mais c'est fou. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et j'en ai souvent discuté, même avec des amis, en disant, tiens, tu prends des notes sur quoi ? Comment ? Ah non, mais moi, c'est sur mon téléphone ou sur mon... Et je sais pas, moi, j'ai du mal avec ça.
Un exemple concret dans ce domaine-là, c'est l'agenda. Vous en avez parlé.
Oui, moi, j'ai toujours un agenda papier.
On ne vend pas moins d'agenda qu'avant, c'est le contraire.
Ouais.
On revend, nous, plus d'agenda papier, alors qu'aujourd'hui, on a la tablette, le smartphone, tout peut se synchroniser pour que nos agendas soient déjà pensés pour nous.
Oui.
Mais le support de l'agenda papier, c'est très intéressant. Et il y en a qui doublent. On a des clients qui ont leur support numérique et qui ont besoin, dans leur agenda, de mettre aussi des petites annotations qui est de l'ordre de plus de l'intimité aussi, par rapport au carnet, à l'objet. C'est très intéressant, ce phénomène de l'agenda papier, du retour de l'agenda papier. Nous, on en reproduit un peu plus chaque année.
Ouais, c'est fou. Et ben, je vois, par mon expérience, mon personnel, c'est vrai qu'avec un agenda, moi j'ai une mémoire très visuelle. Et quand je note dans mon agenda mes rendez-vous ou des choses que j'ai à faire, ben, tout de suite, c'est imprimé aussi dans ma tête. Alors sur mon téléphone, ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Mais
puis nous, depuis 2018, je crois, 2019, on a un petit agenda où c'est le même format. Et c'est vrai que moi, j'ai le plaisir chaque année de classer mon agenda.
Oui.
On a des clients qui se disent, mais c'est super, j'ai mon modèle d'agenda, je classe aussi ça comme archive. Moi, ça m'arrive d'aller voir ton agenda l'année dernière, un moment où j'avais vu quelqu'un où j'avais un numéro de téléphone.
Ah oui, voilà. Et on sait où il est.
Voilà.
Ouais, c'est fou, hein. C'est le pouvoir de noter les choses avec un crayon ou un bic sur un papier.
Mais si je reviens à la question du papier...
Oui, c'est, voilà, on s'est égaré. Oui.
Donc, la visite de ces usines, super. Vraiment des belles rencontres et des très belles découvertes de savoir-faire aussi. Et j'ai toujours plus été attiré par le papier, on appelle ça le text and cover, un peu plus épais, donc sur lequel on peut avoir plus de... une texture plus... Enfin, c'est un peu moins basique.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça fait un grammage... on le pousse dans des grammages plus épais, donc dans des 300 grammes, voire des 600 grammes. Une feuille de papier qu'on utilise en imprimante, on a entre 80 grammes et 100 grammes.
D'accord.
En moyenne. Voilà.
Ouais.
Donc, et nous, dans les machines, tout de suite, on a pu faire de la carte couleur, comme ça... avec du papier teinté dans la masse.
Oui.
Donc, c'est pas un papier blanc avec une couche d'encre bleue. C'est un papier bleu, si on le déchire, qui est bleu aussi à l'intérieur. Donc, qui est dans la masse.
D'accord.
Et moi, j'ai eu un coup de cœur aussi pour cette matière, quoi. Ce produit en tant que matière. Avec des fibres longues, des fibres courtes. Enfin, c'est fabuleux, le monde du papier. Il se gondole plus d'un côté, il y en a qui se déchirent plus facilement, il y en a qui se cassent, enfin voilà. Et pourquoi on parlait du papier ?
Mais pour voir un peu comment vous produisiez, soit vos agendas, vos cartes,
d'où ça vient,
etc. D'où ça vient ?
Donc, voilà.
Quelle est la source ? La source à la base,
c'est des usines européennes.
Acheter du papier, usine européenne.
Oui.
D'accord.
Et pour des spécificités bien particulières, parce que j'ai pas mal bougé pour aller visiter aussi des usines de papier au Japon, où là, vraiment, ponctuellement, quand il y a un savoir-faire qui est purement japonais et qui n'est pas occidental, ben, on importe du papier comme ça. On a certaines couvertures de carnets qui sont vraiment en papier fait traditionnellement au Japon.
Et pourquoi le Japon ?
Je sais pas, c'est aussi un coup de cœur.
Voilà.
Alors moi, j'y allais 2 à 3 fois chaque année. Et pour moi, c'est en quoi je me retrouve dans le Japon, c'est leur de pousser leur savoir-faire. Ils ont une fierté de leur savoir-faire et se dire je peux le faire, quoi. Les Japonais, enfin, même si c'est un monsieur qui va faire des bols ou creuser une planche en bois, il essaie de le faire bien jusqu'au bout, même s'il fait que ça.
Ouais, c'est vrai. Il y a une discipline chez eux.
Oui.
Qu'on a peut-être moins en Europe. Mais quoique...
Je parlais de la répétition sur l'impression tout à l'heure de répéter, de pouvoir imprimer 1000 fois. Pour moi, quand un métier rentre, surtout dans notre domaine de l'impression et du savoir-faire, quand on fait 1000 carnets à la suite manuellement, alors je dis, au bout d'un an, on sait vraiment si on est fait pour ce métier. Parce qu'on a vécu la répétition. Mmh. Moi, elle ne me dérange pas, la répétition. Au contraire, elle m'apaise. Donc,
C'est que vous êtes à la bonne place, alors.
Oui, mais je veux dire, s'il faut que les 10 carnets ou 100 carnets, c'est la même chose, quoi.
Oui. Ouais.
Mais il faut pouvoir trouver du sens dans cette répétition.
Oui, c'est ça. Pourquoi on le fait et pourquoi, pour qui et comment. Alors, là, on a acheté, donc vous achetez le papier dans, dans des usines européennes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe
On reçoit ça en rame, en paquet, en grand format. Donc, c'est du papier qui fait de 70-100 ou 90 par 120.
D'accord.
Et nous, après, il faut le façonner.
D'accord.
Donc, plan de coupe, il faut couper le papier, on le passe en machine avec différentes impositions. Est-ce qu'on peut faire un bloc, deux blocs, trois blocs par morceau? Comme on est très limité dans le format, c'est un peu plus grand qu'un A4 en machine, 24-36. Moi, ça me plaît, ces limites, parce que tout n'est pas possible. Donc, encore ce matin, je discutais avec Nathalie sur un nouveau produit, format du papier. Ah, le papier, dans cette usine, il fait 2 cm de plus. Alors, nous, on pourrait peut-être faire un bloc d'un centimètre de plus parce qu'on a besoin d'un centimètre de marge pour le passage. Du coup, ça nous fait nous adapter sur des nouveaux formats de blocs. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas un bloc qui va faire 12-17. Le prochain bloc qu'on va faire 11-8 par 17.
Non, mais c'est ce on qui a moins fait de votre...
aussi.
Voilà, non moins de pertes.
Voilà.
Et ce qui fait aussi votre, on revient toujours à l'identité, et aussi, travailler sous la contrainte permet des fois de faire des choses bien plus intéressantes. Mmh. Donc, donc, une fois que vous avez le papier, ce que vous allez faire, le design, est-ce que c'est une autre personne qui travaille un peu sur tout ce qui est design de la carte ou de l'agenda ou...
Alors tout ça, c'est ma partie à moi dans la maison.
D'accord.
Tout ce qui est créa, image de la maison. Je travaille de manière très étroite avec Nathalie. Nathalie, au départ, elle a une formation d'infographiste. Donc, elle est une très bonne exécutante. Et quand je le dis, c'est très valorisant. Parce que, à force, au bout de 16 ans... Ben, je lui dis, là, on pourrait mettre le texte un peu plus petit, changer le papier, un jaune un peu plus... On se comprend.
D'accord.
Et elle est sur le terrain, elle est autour des machines.
D'accord.
Et donc, elle est le prolongement de mon idée de départ. Et on a un très bon duo pour ça. Donc, puis au bout de 16 ans, commence à se connaître.
Oui.
Les goûts, les couleurs, voilà.
Ben, c'est important, parce que même le fait que ce soit... Vous soyez vraiment... vous formez une bonne cohésion, c'est je pense que oui, c'est important.
Et même en retour, si moi je suis avec trois papiers verts sous les yeux, je lui donne mon avis, mais son avis compte beaucoup pour moi.
Mm.
Voilà, donc ça finit par être un travail d'équipe.
Oui, un bon travail d'équipe.
Voilà.
Ouais.
Faut une personne pour l'impulsion, une personne pour le continuer, et puis les deux se rencontrent. Voilà.
D'accord. Et alors, une fois qu'on a tout ça, le papier, le design,
ça passe
etc.
en machine,
ouais.
avec des moules qu'on grave en laiton ou en polymère pour avoir un relief comme les lettres, les caractères mobiles. Et puis, on roule, quoi. On appelle ça rouler.
Oui.
Parce que les rouleaux passent sur l'encre, sur les motifs, ça ancre. Et puis, rouler jeunesse. Donc, on roule notre nombre de tirages. On surveille l'ancrage, voilà.
Et le nombre de tirages, il est défini à l'avance ou comment
Nous,
ça se passe?
Nous, on le définit. Par exemple, si on fait un nouveau produit, on a l'avantage, comme une petite structure, de pouvoir tester les choses. On peut se dire, bon, bah là, ce bloc, il est nouveau, on peut en faire 250. Et qui aujourd'hui peut se dire ça? On pourrait me dire, on en fait 50 pour essayer. Ça nous est déjà arrivé. Chose très particulière. Allez, on en fait 100, on en met à Bruxelles, à Nantes, à Paris, et on voit ce que ça donne. Et ça, c'est super. Enfin, moi, j'aime cette souplesse de travail.
Ouais.
Et puis après, ben, les blocs sont là. On voit les réactions des personnes en interne.
Donc, c'est les premières personnes à, entre guillemets, donner, à juger.
Ah, ça fait du bien, ce verre-là, justement, ouais, ça manquait dans la collection.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce retour, cette relecture du travail.
Ouais.
Où des personnes qui sont en emballage disent « Ah, bah dis donc, cette nouvelle carte, ça fait vraiment du bien, il manquait cette couleur. Ah, puis c'est plus frais qu'avant. Puis là, le papier a été changé. Ah oui, c'est plus sympa. » En boutique aussi, il y a des retours.
Mm-hmm.
Les vendeuses et les vendeurs ont des retours des clients. Alors des fois, on nous dit, bon, là, quand on fait des stats à la fin, donc ça, c'est Stéphanie, bonne gestion et comptabilité me fait un retour sur les stats. Ah, le bloc Smiley, il se vend bien, mais le bloc Trèfle est passé devant. C'est drôle. Et puis, on peut voir un peu la tendance de nos clients, c'est un peu leur appréciation sur notre travail.
Mm-hmm.
Donc.
Mais oui, ça vous permet de voir ce qui va moins, de vous améliorer. Fin...
Ou bien des produits qu'on ne peut pas arrêter.
Ouais.
Moi, il y a des choses.
Les best-sellers.
Moi, il y a des choses que je n'aimerais pas continuer.
Ouais.
Je veux dire, oh, on l'a assez vu, on fait ça depuis plus de 10 ans.
Comme quoi, par exemple?
Le mini bloc cœur.
Ah oui, oui, oui.
Mais je lui dis, mais c'est pas possible.
Mais ça plaît.
On n'en finit jamais de ce cœur.
Mais ça plaît, ouais.
C'est basique, mais il le faut. Si on ne l'avait pas dans notre collection, on nous le réclamerait toutes les semaines.
Oui, donc, oui, c'est bien d'écouter, de voir un peu ce qui se passe aussi à l'extérieur de l'imprimerie et voir un peu ce qui va et ce qui va moins. Et donc une fois que vous avez tous les retours de votre équipe, etc. Donc vous les commercialisez donc ici à Bruxelles ou à Paris, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ou...
Alors on a ici la boutique à Bruxelles.
Oui.
On a une franchise à Nantes.
Oui.
C'était une cliente qui a eu un coup de cœur pour la boutique et qui a dit mais moi j'aimerais ouvrir une papeterie. Alors soit je copie ce que vous faites ou alors est-ce qu'il y a possibilité de franchise.
Mm-hmm.
Donc on a une franchise vraiment à collaboration étroite. Donc c'est vraiment, comment dire, une extension de la maison d'ici. Voilà. Elle vient une fois par an ici en atelier. Enfin, il y a aussi une relation très proche. Et puis on est aussi en vente à Paris au Bon Marché, au corner, à l'espace papeterie. Depuis maintenant 10 ans, c'est une très belle collaboration.
Et c'est eux qui, c'est le Bon Marché qui est venu vous chercher ou
oui.
D'accord.
Et puis au début, on avait un petit bout, puis après plus une table, puis après le rayon s'est agrandi parce qu'il y a la demande était là et l'appréciation était bonne. Et c'est une très belle collaboration. Et de tout ça, qu'est-ce qu'on disait? C'est nos points de vente. Et comment on le montre aussi?
Oui.
Ben, par des réseaux sociaux comme l'Instagram où on a notre site web.
Mm-hmm.
Et puis on
qui est très beau d'ailleurs.
Et on passe par par une prise photo de chaque produit.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et là, on fait un gros travail de rafraîchissement sur les photos avec une belle personne pour vraiment prendre en détail la matière, la qualité du papier. Mm-hmm. Et... C'est important aujourd'hui pour communiquer et montrer que
ah oui c'est sûr
ben qu'il y a un savoir-faire derrière
ouais et enfin vous le mettez bien en valeur dans votre sur votre site qu'il y a un savoir-faire que c'est fait à la main que c'est entre guillemets un métier aussi ancestral.
On y passe beaucoup de temps sur un carnet pour finir. ou pour un bloc. Quand on voit toutes les étapes de production, mais parfois il y a plus de 30 étapes sur un produit. Alors ça passe par X personnes, mais on ne peut pas imaginer parfois.
Non, mais c'est ça. C'est, et vous, vous mettez combien de temps entre le fait de le design est fait, etc. On va lancer la production. Il se passe combien de temps à peu près entre l'idée et le carnet ou la carte, ou que le carnet ou la carte soit mis en vente?
C'est variable si on a déjà un recul technique sur le produit. Par exemple, le cahier carton aujourd'hui, techniquement, la reliure, l'assemblage, on a un bon recul avec plusieurs années dessus. Donc si on part sur quelque chose de semblable, on a déjà un temps de relecture sur l'ancien produit. Quand on se lance sur un nouveau produit, là on a toutes des étapes de test de papier, avec des choses qui capotent, mais qui peuvent donner aussi des nouvelles idées. Et c'est variable. Si on se met plein pot dessus sur un produit, il nous faut un mois pour le mettre au point.
D'accord.
Avant de lancer une vraie prod.
Oui.
Parce que le papier peut travailler, parce que le papier doit sécher, parce que le collage doit être sous presse.
Oui.
C'est une matière vivante.
C'est une matière vivante. Et puis, on peut pas vendre un cahier qui soit un peu gondolé. Il faut que le produit soit vraiment... C'est vrai que le papier, c'est hyper... c'est une matière fragile, quoi.
Tout à fait.
Oui, j'avais pas pensé à ça avant. Mais oui, c'est vrai. Et au niveau de... une fois que vous avez produit votre carnet ou votre cahier, au niveau de la reliure, c'est une autre machine qui fait ça ou...
On le fait tout main ici. À l'atelier, oui.
D'accord.
Tout ce qui est façonnage, reliure, assemblage, tout est fait main. Le triage des feuilles, le comptage du nombre de feuilles par bloc. On n'a pas une machine qui nous compte toutes les 75 feuilles.
Non,
on le compte à la main.
D'accord.
Mais du coup, ça permet d'avoir un œil dessus.
Oui.
Et c'est un contrôle qualité en même temps à chaque étape. Voilà. Ah non, c'est vraiment...
Oui, donc on peut vraiment parler de pièce unique. Hein.
Tout est manufacturé.
Oui. Et c'est vrai qu'après, on peut parler aussi du prix, mais le prix est aussi en fonction du temps, du coût de la matière première, mais aussi du temps de fabrication, de la main-d'œuvre, etc.
Le premier coût, c'est la matière première.
Oui, oui.
Alors, si on prend une bonne matière première, ça va se répercuter dans le produit. Il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, il y a tout le travail. C'est des personnes qui vivent de leur travail, quoi. Moi, je trouve ça beau. De pouvoir se dire il y a 12 personnes qui alimentent leur quotidien en venant travailler ici.
Oui.
Donc,
et j'imagine que ces personnes sont des personnes passionnées pour faire ce genre de métier. Il faut...
Oui. Il y a les deux, j'ai envie de dire, qui se croisent et je trouve ça beau. Il y a ceux qui sont là sur la durée, qui sont passionnés et qui ont vraiment un coup de cœur pour tout ce qu'on vit dans la maison. Et puis, il y a des personnes qui viennent là à tiers-temps, mi-temps, un peu comme job alimentaire.
Oui.
Mais parce que l'univers leur plaît. Donc, par exemple, on peut avoir dans la maison une illustratrice qui a son univers à elle et qui vient ici mi-temps comme vendeuse.
Ah oui.
Parce qu'elle a le coup de cœur de l'univers.
Oui.
Et c'est bien. Je trouve que... Ça va aussi avec notre époque.
Oui. Oui, puis ça permet d'avoir des gens un peu, entre guillemets, différents. Enfin, voilà, ça peut aussi peut-être amener d'autres idées après de création.
Ce soir, on a un repas un peu d'équipe, comme ça, pour le printemps. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une diversité dans l'équipe. Mais en même temps que l'unité de l'équipe... Ça se base vraiment sur la diversité et pas sur l'uniformité, quoi. On a vraiment des parcours très différents. Mais c'est bien. On met nos mains dans le cambouis pour un produit dans le même service. Voilà.
D'accord. D'accord. Et je voulais juste revenir sur une question que j'avais au niveau de la couleur. Quand vous choisissez des couleurs, comment ça se passe ?
Alors, en imprimerie, on a un pantonnier qui est l'éventail, la palette des couleurs. Donc, par exemple, un Pantone 178, qui est un jaune un peu moutarde, ou Pantone 318, un vert un peu sous-bois. Enfin, on a chaque numéro comme ça, un vert bien précis. Et après, nous, il faut qu'on produise la couleur. Donc, avec des pots d'encre, on fait nos mélanges. Mmh. Et donc, on se rapproche au plus près. Il faut avoir un bon œil. Mais là, Aude, en atelier, a une belle approche sur la couleur. Je trouve que ses couleurs sont justes. Parce que moi, je peux imaginer un vert grenouille. Si je dis un vert grenouille en atelier, si je ne donne pas un numéro, le vert grenouille peut être très variable.
Oui, et même le vert grenouille, est-ce qu'il y a vraiment un vert grenouille ?
Voilà.
Oui.
Et puis, après, la répercussion, la fibre du papier qui prend la couleur, si le papier est un peu coloré, il faut aussi anticiper ça et voir comment ça va, comment l'encre va interagir avec le papier.
Oui, c'est un peu comme la peinture, hein, parce qu'on ne sait jamais. On se dit tiens, ce vert-là est joli, et en fait, une fois mis sur un dans une maison, sur un mur ou quoi, ça rend pas du tout pareil.
Une question de lumière aussi. Il y a des papiers qui prennent la lumière différemment, donc.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. D'accord. La couleur est mise une fois dans le même type de machine, ou comment ça se passe ?
Il y a un encrier.
Ah oui, haut. Non, mais c'est peut-être bête comme question, mais.
Non, mais c'est important.
C'est vrai que je ne sais. Je ne sais pas comment ça marche. Donc,
Il y a un encrier avec un réservoir d'encre. Donc on met l'encre dans ce réservoir. Et des rouleaux vont s'ancrer dans l'encrier et venir sur les lettres ou les motifs qu'on imprime. Et entre chaque passage des rouleaux, une feuille passe, elle est pressée, et donc elle est imprimée.
Mmh. D'accord. Voilà. D'accord. Et une machine sur une journée, par exemple, elle est capable d'imprimer combien de...
Alors, il y a des temps de calage... du calage, de la préparation de la machine peut être très lourd en imprimerie. Mm-hmm. Déjà, nettoyer l'encrier. Si on passe d'un jaune très jaune et qu'on veut mettre derrière une encre violette, mais que dans la foulée, il faut réimprimer un jaune, après le violet foncé, il faut vraiment avoir tout bien nettoyé.
Ah ouais, c'est ça.
Sinon, le jaune va se reteinter avec le violet. Enfin, bon. Ouais. Donc, il y a des temps de lavage, de préparation, de calage... Mm-hmm. qui est toujours le plus prenant, mais aussi qui est très passionnant. Et pour le papier, on peut tourner à 1000 tirages par heure, nous, en moyenne, ici.
D'accord.
Donc,
Ah oui, c'est beaucoup, quand même. Enfin...
Voilà. Quand D'accord. ça tourne bien, c'est ça. On a certaines machines où le papier est plus délicat à passer, ben on va le mettre entre 200 et 500 tirages à l'heure. Donc, on a des machines qui ronronnent différemment. C'est comme, je disais, le boulanger, il y a peut-être un four à 30 degrés, un autre plus chaud. On a une machine qui tourne au ralenti, et pendant ce temps-là, on peut gérer une machine qui tourne plus vite, et on arrive à être sur 3 machines comme ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Où est-ce que vous allez chercher toutes vos inspirations ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors. J'ai cru comprendre au départ, vous avez aussi eu des coups de cœur, pour le métier, des coups de cœur aussi de voyage pour le Japon, etc. Est-ce que c'est des choses qui vous inspirent dans votre création au quotidien ou...
Avec le recul, je pense que ma première source d'inspiration au sens large, c'est le vivant.
Oui.
Quand je dis vivant, c'est aussi bien une plante... que de se retrouver dans un paysage de montagne, que d'une rencontre avec une personne. et que ce rapport au vivant, pour moi, c'est la source de toute création. Mmh. Donc, à un moment, par exemple, on faisait des cartes pour la Saint-Valentin. On avait un petit bloc avec une bouche dessus, imprimée, un peu stylisée, un peu comme s'il y avait la trace du rouge à lèvres. Voilà, c'est un peu cliché, mais pour comprendre. Et puis, la feuille passe deux fois dans la machine, mais la deuxième feuille passe de travers. Et donc, ça imprime deux bouches l'une sur l'autre. Et je trouve ça génial, en fait, se rappeler.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, on a un mini-bloc avec deux bouches imprimées. Donc, un premier passage en rose et l'autre en rouge. Mais voilà, je trouve que c'est un rapport au vivant, tout ça.
Ah oui, c'est hyper intéressant. C'est souvent des petites choses comme ça qui sont... inattendus qui nous font dire tiens, ça peut être une bonne idée.
Moi, l'accident, il m'intéresse toujours.
Oui, voilà, c'est ça, l'accident.
C'est comme la tarte tatin.
Ouais, c'est ça.
Elle est sortie du four, elle est tombée par terre. Voilà.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un dessert.
Ouais.
Eh bien, cette bouche, je la trouvais trop statique, un peu rigide et tout. Le fait que l'autre arrive en travers, les deux l'une sur l'autre, hop, ça donne un côté tout de suite plus vivant. Voilà.
D'accord.
Il faut se laisser surprendre.
Tout à fait. Tout le temps, tous les jours. Et ouvrir ses yeux. Moi, je me souviens, on m'avait souvent dit ça, quand j'étais petite, ouvre tes yeux et regarde ce qu'il y a autour de toi. Et c'est vrai que c'est... lever la tête aussi. Dire, tiens, surtout à Bruxelles, il y a par exemple des maisons art déco. Si on ne lève pas la tête, on ne les voit pas. Et se laisser surprendre même par les gens, par les graffitis dans la gare. Il y a beaucoup de sources d'inspiration. Il y a d'autres imprimeries comme la vôtre. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui...
Alors oui, quand j'ai commencé il y a 17 ans, on s'était dit que c'était un peu la mort de ces imprimeries. On m'a pris pour un fou, on m'a dit... Mais... Quelle idée de commencer ce truc comme ça, ça c'est la fin, enfin, c'est une page est tournée. Et aujourd'hui, comme je l'expliquais, le boulanger qui se reprend avec son pétrin et sa pâte au levain aujourd'hui, il y a aussi des... Ben, c'est bien, on a des nouveaux confrères qui se disent, ben, moi aussi je peux faire ça comme métier. Mmh. Alors on a été inspirants pour d'autres.
Oui.
Et c'est beau parce que le champ des possibilités est très grand. On a été copié aussi pour certains produits.
Ah, si vous êtes copié, c'est que c'est
bon,
c'est
signe.
Bien. Oui.
Moi, je le prends très bien.
Voilà.
Des fois, on me dit oh, regarde, c'est la même chose, exagère. Je dis mais non, tant que nous, on continue à faire des nouvelles choses, voilà. Ça ne pose aucun problème. Mais oui, il y a aussi un goût comme ça pour l'artisanat qui revient dans tout domaine. Donc pourquoi ça ne reviendrait pas dans l'imprimerie ?
Oui, ouais, c'est vrai.
S'il y en a qui se remettent au tricot et à faire des tapis à la main, je pense à ça parce qu'on m'a parlé de ça l'autre jour, ou alors quelqu'un qui va faire des confitures maison, c'est la sonnerie de l'atelier.
D'accord. On va déjeuner maintenant.
Non,
et on finit juste quelques petites questions. Pour finir, ce que vous venez de dire, c'est peut-être le goût d'avoir un objet entre ses mains, dans ses mains, qui soit unique et où il y a un travail derrière, en fait. Mmh. Je pense que les gens, beaucoup de gens reviennent à ça aujourd'hui. Et ça vaut pour tout, même pour ce qu'on mange, pour plutôt favoriser le local au global. Pour moi, c'est un très beau métier et je suis ravie d'avoir découvert le typographe pour ça. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, dans ce que vous faites aujourd'hui ? S'il y avait un mot qui pourrait ressortir de cette aventure ?
Vous parliez de l'objet.
Oui.
Moi, ce que je trouve beau dans l'objet, c'est que c'est un prolongement de celui qui l'a produit. Et c'est aussi celui qui le reçoit, qui l'utilise. Donc, une rencontre entre les deux. Moi, je trouve ça super quand... On a par exemple un magasin d'Anseau à New York qui commande chez nous des blocs. Et l'autre jour, un ami me dit « Ah, mais j'ai une amie qui a utilisé un bloc du typographe, elle l'a trouvé là-bas. » Non, mais je trouve ça très
chouette.
Il y a un réseau qui se tisse indépendamment de l'idée initiale, à travers l'objet.
Oui, il y a une transmission, une passation de choses. Je crée, je... Une personne va s'en servir et ensuite une autre personne peut-être lira ce carnet. Ouais, c'est...
Et du coup, l'objet prend une histoire.
Oui, c'est ça, c'est une histoire.
Et l'histoire rencontre l'histoire de chacun et ainsi de suite. Donc moi, je trouve ça... Ça me maintient vivant.
Voilà, c'est vrai. Est-ce que dans votre parcours, vous vous êtes dit à un moment, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou
Oui.
Parce que c'est un métier, comme on vous l'a dit, mais vous êtes fou de faire ça. Est-ce qu'il y a eu des difficultés majeures ou...
Le début, j'ai commencé avec quasiment rien.
Ouais. Ouais.
Donc j'ai travaillé 80 heures semaine. Avec l'épuisement qui allait avec. Après, il y a eu des périodes avec des soucis économiques forts. C'est inévitable, je pense, quand on est dans le domaine du commerce. Le passage du Covid
n'a pas aidé.
Tout le monde à l'arrêt, moi quasiment tout seul ici en interne pour essayer de garder à flot au minima les choses. C'était aussi une épreuve. Mais dans l'ensemble, quand on en sort toujours...
Oui, c'est ça, c'est que...
C'est qu'il y a une raison de continuer.
Oui.
Voilà.
Oui.
Moi, je crois en cette dynamique.
Et vous disiez, il y a combien de personnes qui travaillent chez vous aujourd'hui ?
Une douzaine.
Une douzaine de personnes. D'accord.
Aujourd'hui, on est dans une belle dynamique aussi de... J'aime pas le mot développement, mais de soutien de ce qui se vit ici. On réfléchit aussi à d'autres machines, d'autres techniques pour un peu élargir notre parc machine pour des nouvelles propositions. Donc il y a des idées dans les tuyaux, il y a de la motivation dans la maison pour apporter des nouvelles choses. Donc c'est bien.
D'accord.
On est dans une belle période, je trouve.
Le typographe a encore de belles années devant lui.
Ah ben ça, l'avenir le dira, mais je le pense.
Oui, oui, oui. Et pourquoi vous dites qu'on est dans une bonne période en ce moment, aujourd'hui ?
Ben parce qu'il y a une belle réceptivité de ce qu'on fait. Et de plus en plus. Donc... La relation entre le produit et ceux qui vont le découvrir et nous qui devons le créer, et ben là, de quoi être nourri.
Oui, oui. D'accord.
Donc c'est pour ça, je pense qu'on a on est dans un beau moment.
D'accord. Ben, c'est tant mieux, tant mieux. Alors je vais juste terminer avec quelques petites questions. Voilà, qui me semble intéressante et m'inspire, donc j'espère que pour vous ce sera pareil.
On y va.
Si le typographe était un pays, ce serait quel pays ? Lequel ?
J'hésite entre les deux.
Je crois avoir une réponse, mais je...
Eh bien, on pourrait penser le Japon,
oui.
Mais non, je pense à la Suisse.
Ah, d'accord, et pourquoi ?
Parce qu'il y a... une tradition du savoir-faire et une fierté aussi du métier, de la tradition, en étant aussi dans notre monde. Il y a une approche de la quiétude. Comme,
oui, c'est vrai.
Il y a une quiétude en Suisse qui fait que le temps traverse les choses, mais c'est tout autant actualisé. Et avant, j'aurais dit le Japon, mais de plus en plus, je pourrais dire la Suisse. Mais les deux drapeaux sont très beaux.
Oui. Oui, c'est vrai.
Entre le Japon et la Suisse.
Oui, des drapeaux assez simples, mais assez
graphiques,
flashy. Oui. Et vous dites la Suisse ici par rapport à tout le savoir-faire qu'ils ont, eux, dans d'autres métiers, comme l'horlogerie, ou pas du tout.
Oui, le monde du fromage, je trouve
aussi.
Ça fabuleux.
Oui, oui.
Le monde, les paysans en Suisse, la campagne suisse a une grande importance. Je pense qu'on ne peut pas mettre le couvercle sur nos campagnes. C'est là où il y a la source de tout ce qu'on vit. Il y a une préservation d'un patrimoine et en même temps, c'est très moderne.
Oui.
Pour moi, les deux ne font qu'un.
Les deux se rejoignent. Ouais. D'accord.
Et il y a Carandache en Suisse. Non, mais il y a des belles marques d'écriture.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis allée pour la première fois en Suisse l'année dernière et j'ai trouvé qu'il y avait un... Bon, alors, je sais pas, on avait peut-être eu de la chance aussi, mais c'est super beau. J'ai eu envie de déménager là-bas. Parce que je me suis dit, il y a la montagne, il y a aussi le lac qui est magnifique, avec une eau magnifique. Mmh. Enfin... Et oui, comme vous dites, une quiétude, comment dire, une simplicité de vie qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et pourquoi continuer à écrire des lettres sur du papier ou plutôt que d'envoyer un mail?
Ah ben ça, il suffit de voir. Alors, si je vous envoie une photo d'un gâteau par mail, mais si je vous apporte un gâteau pour votre anniversaire à la maison, je pense que le...
Ça me fera plaisir.
Ça ne fera pas le même effet. Je pense que c'est pareil. Vous avez déjà regardé la tête d'une personne qui ouvre une lettre ou qui sait qu'elle a une lettre dans sa boîte aux lettres avant même d'ouvrir la lettre?
On ne parle pas des factures, on parle des lettres qu'on reçoit.
On parle d'un courrier charmant. Eh bien, avant même d'ouvrir la lettre, on a déjà la patate, quoi.
Ah oui. Même les cartes postales.
Oui.
Moi, je sais que j'aime bien envoyer des cartes postales encore aux personnes qui sont sensibles à ça, comme mes parents, mes grands-parents, etc. Mais même mes amies qui en reçoivent, elles sont toujours super contentes. Et moi aussi, d'ailleurs, j'aime bien en recevoir, ou des faire part de naissance, ou des choses comme ça.
Ça participe à la joie.
Ouais.
Et on a besoin de se sentir joyeux. Donc, ouvrir sa boîte aux lettres et voir une carte, ouf!
Oui, c'est ça. Ça fait plaisir.
Voilà.
Et de se rendre compte qu'une personne a pris le temps de l'écrire pour nous, etc.
Et l'intention est très belle.
Oui, oui, oui. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, je rentre chez le typographe, qu'est-ce que je trouve?
On trouve de la papeterie, et donc...
Oui, ça, oui.
Et avec des tas d'objets dans le domaine de la papeterie qui ont été un peu sélectionnés dans, que ce soit du Japon, en Suisse, ou voilà, en Italie. Parce que c'est des objets qui moi me touchent, me plaisent. Il y a aussi parfois, il faut aussi répondre à une attente. Pendant X temps, quand on nous dit vous auriez pas ci, vous auriez pas ça, d'accord, oui, on va vous le trouver. Ou alors on nous dit une belle agrafeuse.
Oui, okay, c'est vrai, mais vous avez des beaux objets. Oui.
Comment trouver une agrafeuse sympa? Alors moi, je me suis acharné jusqu'à la taille de l'agrafe. Donc on a des agrafeuses qui ont des toutes petites agrafes. Parce que je trouve ça très beau.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Quand il y a une toute petite agrafe plutôt qu'une grosse agrafe un peu administrative, là, prouf. voilà, et ça, c'est des agrafeuses, par exemple, qui sont faites en Italie, dans une petite fabrique familiale. Depuis une centaine d'années, ils font leurs agrafeuses aussi dans une manufacture. Voilà, donc il y a tout cet univers de la papeterie.
D'accord.
Et puis il y a aussi des objets un peu maison, parce que c'est aussi un peu un coup de cœur personnel. On a par exemple un essuie de vaisselle à carreaux, parce que nous, le carreau est assez présent dans nos motifs de bloc.
Oui.
Et donc là, c'est une maison belge, avec du lin belge. Et c'est un objet qui cohabite bien avec... graphiquement, visuellement, avec ce qu'on a. Voilà.
D'accord. Et pour terminer, une dernière question. Quelle est la phrase ou l'expression qui vous a le plus plu à imprimer sur une carte ces dernières années? Après, s'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Hein.
En fait, le Covid, c'était en 2020, je crois.
Oui.
Et il fallait faire une carte de vœux pour 2021. Ça, c'était pas facile.
Oui.
Et on avait une carte fuck depuis toujours, or
sur
noir.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
Et là, on a fait fuck 2020. Et c'était la première année qu'on faisait une carte de vœux sur une année passée. On écrivait fuck 2020 pour annoncer 2021. Tellement tout le monde en avait ras-le-bol.
Ouais, ouais.
Et ça, c'était assez jouissif comme carte dans l'histoire de nos cartes de vœux. Parce que chaque année, on a une carte de vœux dans la maison, aussi plus personnelle. Et j'ai celle-là qui me vient en tête, voilà.
D'accord. Ben, on va terminer là-dessus. Alors, fuck 2020 et welcome 2024 pour des beaux projets et encore une belle vie au typographe. Merci Cédric.
Merci Isaline.
Le typographe, c'est au 67 rue Américaine, dans le très beau quartier du Châtelain, à Bruxelles. Et si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez retrouver toutes les créations sur le site web typographe.be. Et pour mes amis nantais, il y a aussi une boutique Place de la Monnaie à Nantes. Si vous aimez le beau papier, je vous invite à vous y rendre sans tarder. C'est peut-être le moment de vous parer d'un beau carnet que vous emporterez sur la route des vacances. Ce sera l'occasion d'y déposer vos coups de cœur, vos beaux moments et de laisser une trace à vos souvenirs. Moi, j'ai craqué pour un cahier où je pourrais griffonner mes idées d'interview. Je tiens à remercier Cédric de m'avoir accordé un moment pour ce bel échange. Merci également à Amélie qui, après plusieurs rendez-vous autour d'un café pour partager nos idées, a créé l'identité visuelle de ce podcast. Merci à Satchel qui, entre deux répètes de musique, a pris le temps de monter cet épisode et à Nicolas pour ses conseils et son aide précieuse. Et merci surtout à vous d'avoir écouté ce premier épisode qui est pour moi symbolique, important. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure qui est chère à mon cœur. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce podcast et mon univers, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.